Journal Olivier Zano.
Bonjour, il fut un temps où les animaux comparaissaient aussi devant les juges. Une spécialiste en parlera ce soir lors d'une conférence au CIPA Tramelan. C'est un retour au Moyen-Âge qu'on vous propose en ouverture de ce journal. 7,5 milliards de francs et 15 biens immobiliers, c'est le montant des avoirs russes gelés en Suisse depuis l'invasion de l'Ukraine. Certains politiciens et ONG en demandent encore plus, vous l'entendrez. Le Lausanne HC réussit bien au HC Bienne, 2 victoires en 2 matchs pour les Célandais face aux Vaudois depuis le début de la saison de National League. Et pourquoi pas 3 dès ce soir, LHC-HCB, une affiche qu'on vous présente dans notre page sport. Un temps à rester au chaud, l'épaisse couverture nuageuse en dessus de nos têtes va se maintenir cet après-midi. Quelques flocons ne sont pas exclus, 2 à 5 degrés au mieux et une légère bise qui renforcera la pression de fraîcheur. Un cochon sur le banc des accusés. L'image peut vous faire sourire, mais au Moyen-Âge, elle n'était pas si loin de la réalité que ça. À cette époque, la relation entre l'homme et l'animal était différente de celle d'aujourd'hui. Il arrivait que des rats ou même des vers soient en procès pour des crimes qu'ils ont commis. C'est la thématique qui sera abordée ce soir lors d'une conférence au CIPA Tramelan. Elle sera présentée par Catherine Chen de l'Université de Lausanne. Elle nous explique ce qu'on entend par « procès d'animaux ».
Au Moyen-Âge, on distingue 2 pratiques qu'on désigne sous le nom de procès d'animaux. D'une part, des procès qui étaient menés devant des tribunaux laïcs contre des bêtes accusées d'avoir blessé ou tué un être humain. C'était des procès qui se concluaient généralement par l'exécution publique de l'animal. Parmi les animaux, c'est essentiellement des porcs, des animaux qui vivaient à l'état semi-sauvage au Moyen-Âge. Et puis, un autre type de procès d'animaux, qui sont des procès qui étaient engagés devant les tribunaux ecclésiastiques contre tous les animaux susceptibles de ronger ou de détruire les biens cultivables, comme les souris, les vers, les insectes, etc. Et dans ce cas, le but de ces procès était d'obtenir en fait une sentence d'expulsion prononcée par le juge ecclésiastique. Une sentence d'expulsion qui s'est d'abord exprimée sous la forme d'un exorcisme public et qui s'est ensuite identifiée à l'excommunication. Ce qui est particulier, c'est que dans les 2 cas, ces affaires donnaient lieu à des débats où les animaux étaient représentés par un procureur qui défendait leur cause en face des habitants.
Est-ce qu'à travers ces procès, on ne voulait pas finalement mettre les hommes et les animaux sur un pied d'égalité ?
Pour les procès ecclésiastiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'expulsion de ces animaux, qui pour nous sont vraiment au plus bas de l'échelle du monde animal, en fait, c'est un acte qui nécessitait d'être justifié. Donc, on se rend compte que la domination de l'homme sur la nature n'est pas encore complètement acquise, en fait. On ne peut pas de soi expulser et vouer à la mort des animaux sans passer par un jugement.
Catherine Chen au téléphone de Diana D'Acosta, elle animera la conférence Exorcisme, malédiction et procès d'animaux dans le diocèse de Lausanne ce soir. Ça se passe au CIPA Tramelan à 19h30. Le budget 2023 de la Confédération passe l'obstacle du Conseil national. Ce dernier l'a adopté ce matin par 137 voix contre 49. Le budget gouvernemental prévoyait 81,3 milliards de francs de recettes et 86,2 milliards de dépenses, avec un déficit de financement de 4,8 milliards. Le national y a ajouté 15,11 millions de dépenses, notamment pour la protection des troupeaux contre le loup et pour la promotion des vins suisses. Ce budget présenté par le Conseil fédéral respecte le frein aux dépenses. Le Conseil des États se prononcera lundi prochain. Elle entre en vigueur aujourd'hui. La loi révisée sur l'analyse génétique réglemente désormais presque tous les tests génétiques. En plus des médecins, les dentistes, les pharmaciens et les chiropraticiens pourront à l'avenir prescrire des tests génétiques. Et les laboratoires génétiques dans le domaine médical seront désormais soumis à une obligation d'accréditation. Même empaillés, les animaux menacés ne peuvent pas être importés librement en Suisse. Un Allemand qui voulait introduire un guépard empaillé depuis l'Autriche l'a pris à ses dépens fin octobre. L'objet a été saisi à la douane saint-galloise de Sankt-Margrethen. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières rappelle qu'une autorisation spéciale est nécessaire pour l'importation d'animaux, même pour les produits fabriqués à partir de leur chair. Du répit pour les centres fédéraux pour requérants d'asile, ils disposent à nouveau de suffisamment de places pour accueillir les nouveaux arrivants. Dès la mi-décembre, les requérants dont la procédure n'est pas encore bouclée ne seront donc plus attribués au canton de manière anticipée. Depuis septembre, la Suisse a enregistré jusqu'à 800 demandes d'asile par semaine. 7,5 milliards de francs et 15 biens immobiliers, c'est le montant des avoirs russes gelés en Suisse depuis l'invasion de l'Ukraine. Le secrétariat d'État à l'économie a fait le point de la situation ce matin. Les chiffres ont peu évolué ces derniers mois, notamment parce que la liste des personnes et des entreprises russes sanctionnées ne s'est pas allongée. Depuis le début de l'application des sanctions, les partis de gauche, mais aussi des ambassadeurs et des ONG se montrent critiques. Ils estiment que la Confédération n'en fait pas assez pour trouver et bloquer les avoirs russes. La réaction d'Erwin Bolliger, représentant du secrétariat d'État à l'économie.
Notre estimation est qu'on a bien travaillé avec des pays de l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne. On est en échange étroit. On a des consultations aussi avec la Commission européenne. Notre coopération est appréciée et on reçoit toujours des réactions que ça fonctionne assez bien. On ne peut pas vraiment comparer les chiffres parce que chaque pays est dans une autre situation. Il y a peut-être plus de Russes qui sont dans un pays que dans un autre. Alors avec les comparaisons, il faut être prudent. Mais je pense quand même qu'on était toujours parmi les premiers qui ont annoncé les montants gelés. Maintenant aussi avec ces notifications des comptes bancaires, des personnes non sanctionnées, on était les premiers à publier ça. Alors je pense quand même qu'on a fait le travail bien.
Est-ce que vous devriez faire plus, essayer d'avoir plus de ressources pour pouvoir trouver plus d'avoir russe?
Non, je pense que ce n'est pas une question des ressources. On a reçu des ressources. On a actuellement une bonne vingtaine de collaborateurs et collaboratrices dans ce secteur. On est aussi en train de baisser les quelques milliers de demandes qu'on a reçues depuis le début de cette guerre. Avec ce renforcement des ressources, on est vraiment capable de baisser ces demandes et aussi de faire ce qui est nécessaire.
Dans l'actualité internationale, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, visé par une lettre piégée, c'est ce que révèlent aujourd'hui les autorités. Elles confirment qu'un envoi aux caractéristiques similaires à celles ayant explosé hier à l'ambassade d'Ukraine à Madrid a été remise à Pedro Sanchez. La lettre piégée a été détectée assez vite et neutralisée par les services de sécurité et de la présidence du gouvernement. Le Bundestag reconnaît comme génocide la famine en Ukraine provoquée il y a 90 ans par le régime stalinien. La chambre basse du Parlement allemand a adopté hier soir à une large majorité une résolution en ce sens. En 1932 et 1933, près de 3,5 millions d'Ukrainiens ont été victimes de l'Holodomor, qui signifie en ukrainien « extermination par la faim ». Autre résolution, mais celle-ci en France, l'Assemblée nationale a affirmé hier son soutien à Kiev et condamné, je cite, « le crime d'agression de la Russie envers l'Ukraine ». La résolution a été adoptée à une forte majorité. Le texte, qui n'a pas de valeur législative, appelle à une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Des propos absolument pas chrétiens, c'est le reproche formulé par le Premier ministre russe Sergueï Lavrov à l'encontre du pape François. Ce dernier a qualifié de cruels les soldats russes issus de certaines minorités ethniques et combattants en Ukraine. Enfin, aux États-Unis, les démocrates ont élu le successeur de Nancy Pelosi. Hakeem Jeffries a été désigné hier par ses pairs pour diriger le parti à la Chambre américaine des représentants. Il devient le premier homme noir à occuper de telles responsabilités au Congrès américain.
RJB, il est midi passé de 24 minutes.
Sport. Un nouvel hiver en perspective pour le giron jurassien des sports de neige. La relève de la région s'apprête à entamer la saison des compétitions. Cette saison, ils sont 11 jeux dans ski alpin et 5 jeux dans ski nordique à bénéficier de l'accompagnement et de la structure d'entraînement du giron. Le secteur nordique bénéficiera de l'expérience d'un nouvel entraîneur. Le français Alexis Jeannereau a été engagé. Il a à son actif une grande expérience de la compétition avec une trentaine de départs en Coupe du Monde. Les précisions de Damien Pellaton, directeur du centre régional de performance pour le ski nordique.
C'est un athlète qui a une très grosse expérience de la compétition et de l'entraînement surtout. Ce qu'il apporte, c'est aussi, je dirais, toujours cette expérience pour les jeunes, cette connaissance. Il est beaucoup à l'écoute avec les jeunes. Il y a beaucoup de partage avec lui. Et puis, ce qu'on veut travailler avec lui, c'est vraiment sur le long terme, sur le nombre d'athlètes qu'on va pouvoir intégrer au niveau des CRP. Et lui, c'est aussi vraiment son objectif, son challenge, de ramener du monde au sein de la structure nordique.
Par ailleurs, Didier Cuche accède à la présidence. L'ancien champion neuchâtelois est l'exemple même qu'accéder au plus haut niveau en faisant ses armes dans l'arc jurassien est possible, même si l'enneigement se fait de plus en plus rare. Didier Cuche.
C'est ce qui a été mis en place depuis maintenant une dizaine d'années avec ce centre régional de performance, avec toute la coordination avec les écoles, des congés qui sont accordés. C'est sûr que le niveau d'école doit être ce qu'il doit être pour qu'on puisse avoir les congés, et ça les jeunes en sont conscients. Mais on arrive à compenser ces périodes où on ne peut pas skier ici avec cette structure qui se déplace. ce qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire avant. Et ce qui fait qu'on ne manque pas forcément de jours par rapport aux autres associations. L'été, les camps d'entraînement se font de toute façon sur les glaciers, donc là on n'est pas forcément dépendant d'un enneigement directement. Mais c'est sûr que l'hiver, une fois que les courses se font, elles se font un peu partout, pas seulement ici dans le Jura. Donc les jeunes skis quand même se mesurent quand même aux autres jeunes de l'arc roman voire national. Pour les phases d'entraînement, c'est sûr qu'on doit un peu se déplacer. Mais c'est grâce à cette coordination avec les écoles et tout le staff qu'on a au sein du Giron.
Un dossier réalisé par Léonard Reichen. Le HCBN reprend la route 48 heures après leur défaite à Davos. Les hockeyeurs célandais se rendent à Lausanne ce soir à 19h45. Ils ont remporté les deux premiers duels de cette saison de National League face aux Vaudois qui vivent un exercice compliqué et qui pointe à la 12e place. Mais depuis, les Lions ont changé d'entraîneur. Le Canadien Geoff Ward a repris les rênes il y a 4 semaines à la veille de la pause internationale. L'attaquant de Lausanne et ancien biennois Marco Pedretti.
C'était, je pense, un changement dont on avait besoin. On était quand même sur une spirale négative et puis il fallait changer quelque chose. Maintenant, nouveau coach, un peu nouveau système, beaucoup de nouvelles informations, mais ça fait du bien. Il y a une nouvelle dynamique. Tout le monde a à nouveau un peu sa chance et puis tout le monde a envie de se montrer. Donc je pense que c'est positif.
Qu'est-ce qu'il essaye d'amener? Quelle est un peu sa philosophie de hockey sur glace?
Beaucoup d'intensité, de jouer vraiment vers l'avant et puis le plus rapidement possible. Donc essayer d'éviter de faire des dit-tout-dit, de revenir en défense, etc. Donc c'est un des changements qu'il essaie d'apporter, ouais.
Et dans la gestion de l'équipe, dans l'approche des joueurs, c'est aussi quelque chose de différent avec Geoff Ward?
Ouais, il a beaucoup de vécu, il a fait beaucoup d'années en NHL, donc il arrive quand même pas mal à gérer les groupes. Pour le moment, on a eu des bonnes discussions individuelles avec lui. C'est vrai qu'il fait beaucoup de vidéos également, et puis... Il explique bien les choses, ça se passe plutôt pas mal pour le moment.
Qu'est-ce qu'on vise en ce moment pour la suite de la saison dans le vestiaire du LHC?
On vise l'équipe qui est au-dessus. Notre but, c'est de grappiller le plus de points possible et puis de grimper au classement. On garde la confiance, on sait qu'on est capable. Maintenant, il faut arrêter de se trouver des excuses et puis de parler, puis il faut agir. Donc là, il nous faut des points. Le plus rapidement possible et le plus possible.
Marco Pedretti au téléphone de Mathieu Schaffner, Lausanne, HCBN. C'est un duel à suivre sur RJB dès 19h30. Le Tour de France arrivera à Nice en 2024. L'épreuve cycliste désertera Paris pour la première fois depuis 1905 en raison des Jeux Olympiques, selon une annonce faite aujourd'hui. Autre nouveauté, la dernière étape, traditionnellement un sprint sur les Champs-Élysées, sera cette fois un contre-la-montre individuel. Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils sur le terrain demain soir face à la Serbie? Le gardien et défenseur de l'équipe de Suisse de football ont été victimes d'un refroidissement et ne se sont pas entraînés ce matin à la veille du match décisif dans le groupe G de la Coupe du Monde au Qatar. Jerdan Shaqiri et Noah Okafor étaient en revanche présents. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place. Aujourd'hui, 3 grands d'Europe, à savoir l'Allemagne, la Belgique et la Croatie, sont en danger. La situation dans le groupe F est très indécise avant cette troisième et dernière journée de la phase de poule. 3 équipes sont en lice pour 2 places en 8e de finale. Le Maroc semble le mieux placé avec ses 4 points avant d'affronter le Canada qui est déjà éliminé. La Croatie a aussi son destin en main avec 1 point de plus que la Belgique qu'elle affronte début de ses matchs à 16h. Dès 20h, tout est possible dans le groupe E où 3 équipes peuvent encore finir première. D'abord l'Espagne et le Japon qui seront face à face, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Allemagne et que dans le même temps les Espagnols et les Japonais font match nul. La Mannschaft doit-elle gagner à tout prix pour se qualifier? Retrouvez toute l'actualité autour de ce mondial dans notre journal La Coupe du Monde à 18h30 et tout au long de la journée sur rjb.ch. Merci d'avoir été avec nous. Bon appétit si vous passez à table. Très belle journée.